permanent. Bousculé par les éléments naturels, la violence de sa société et la profusion de ses croyances, qu'est-ce que la mexicanité ? Regard croisé de musiciens, de plasticiens et de chercheurs sur ce millefeuille historique et identitaire. C'est ce soir à partir de 21h.
France Inter présente We Want Sex Equality, un film de Nigel Cole, actuellement au cinéma. 1968 en Angleterre, une ouvrière de l'usine Ford découvre que les hommes sont mieux payés que les femmes. C'est en se battant pour elle et ses copines qu'elle va tout simplement changer le monde. Retrouvez We Want Sex Equality à 20h dans l'Une Heure Vagabonde. France Inter.
La différence.
15h04 sur France Inter, je vous laisse en compagnie de Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Salut tout le monde, ça n'a aucun rapport avec l'actualité, mais je suis en train de visionner les images de la NASA qui ont été prises sur la planète Mars. Et donc je suis assis tranquillement devant mon écran et je suis en train de visionner des images qui ont été réalisées quelques semaines, voire quelques mois sur la planète Mars. Et je trouve ça toujours étonnant, quoi. On est apparu sur la planète il y a quoi, 200 ou 300 000 ans. On était à poil, hein, on était comme des singes. Et aujourd'hui, on est capable de rapatrier des images de la planète Mars. Intellectuellement parlant, c'est quand même pas mal. Le seul problème, c'est qu'il y a toujours les gens qui crèvent de faim. Et ça, c'est terrible aussi, quoi. D'un côté, on peut faire des choses extraordinaires, et de l'autre côté, on est capable de laisser crever les copains.
Oui, bonjour. Alors voilà, je suis en train d'écouter votre émission, là. Et puis, ça me fait penser à... Oh, une toute petite réflexion qui avait fait partie du lot des câbles diplomatiques révélés par WikiLeaks, comme quoi Nicolas Sarkozy avait annoncé à l'ambassadeur des États-Unis pendant la campagne présidentielle que la France avait besoin d'un Reagan ou d'un Thatcher. Voilà, comme on disait Bourdieu, oui, voilà, ils vont couper la main gauche de l'État, voilà, celle qui donne. Et ils ne garderont que la main droite, celle qui prend et celle qui pend aussi. On n'en est pas encore là, mais on y viendra peut-être. Bonne continuation, au revoir.
Oui, j'ai bien écouté l'émission du 9 mars concernant le public et le privé. Et puis j'ai lu dans le Canard Enchaîné aujourd'hui du 9 mars, justement, quelque chose qui illustre bien. C'est le Auchan de Montauban qui veut s'agrandir et pour cela, il fait abattre, c'est évident, l'école Jean Moulin de Montauban, avec l'accord, c'est évident, de la mairie de Montauban. Donc la petite guéguerre privée-publique, elle se retrouve des fois de façon ubuesque dans certains endroits. Bon courage au public qui n'est pas privé de problèmes. Ciao.
Oui, c'était bien d'entendre le reportage, le beau travail de Charlotte Perry. Et moi, je suis d'accord avec la petite dame qui dit qu'elle est contente de payer des impôts. Moi aussi, je suis contente de payer des impôts et de continuer à venir en aide aux plus faibles, aux enfants, aux personnes âgées. C'est à ça que sert l'hôpital public. Et effectivement, il ne faut pas le laisser mettre en charpie et il ne faut pas que des sociétés privées mettent la main dessus. Je suis bien d'accord. Continuez comme ça.
À propos des gros niqueurs, bon, être un gros niqueur ne signifie pas forcément être un chroniqueur. La différence entre un chroniqueur et un gros niqueur, c'est-à-dire entre un chroniqueur et Daniel Mermet, c'est que le chroniqueur a supposé qu'il emmerde le monde pendant 3 minutes et demie, alors que Daniel Mermet, ça dure près d'une heure. J'ai entendu que Michel Droy avait sévi de 1969 à 80. Eh bien, ça veut dire qu'il a sévi beaucoup moins longtemps que Daniel Mermet. Et ça veut dire qu'il est beaucoup plus difficile de se débarrasser d'une merde de gauche que d'une merde de droite. Ce qu'on voit d'ailleurs avec les dictatures en général. Bon, moi, ce que j'aimerais finalement, c'est que ça change un peu à France Inter, qu'on ait effectivement des gens comme Éric Zemmour, plutôt que la bande de cloportes, là, qui nous pompent l'air depuis des décennies maintenant. Qui sont payés avec nos impôts, raquettés à travers la redevance. Enfin, voilà, moi c'est ce que je pense. Hein. Bon, salut.
Ouais, salut Daniel, salut les OMG. Les sondages sont à la mode. Alors comment voudrez-vous laisser croire que toute la France est au front? Un petit rappel de deux sondages. Notre personnalité préférée des Français, en 1, Yannick Noah, en 2, Danny Boone. Zinedine Zidane, le journaliste préféré des Français, Harry Rosenmack. Or, si certains MJ ont un petit peu de temps, il ferait bien d'aller leur cliquer ces deux sondages au petit gars de la marine. On les retrouve partout en ce moment sur les forums, aussi bien de Libé au Figaro. Et ils n'aiment pas ces deux sondages. Ils deviennent fous lorsqu'on leur met ces deux sondages. Allez, à bientôt. Ciao, c'est Christian du Nord.
Pour ma part, pour les présidentielles, je voterai pour le premier qui me déclarera publiquement que s'il arrive au pouvoir, il renationalisera Total, Renault complètement, enfin un petit peu, les autoroutes que Jacques Chirac a bradé à ses potes, etc., etc., etc. Dans ces cas-là, oui, effectivement, parce qu'il n'y a pas à chier, quoi, tous les gros industriels, là. Ils veulent vendre en France. On nous menace sans arrêt, si on les taxe, ils vont se barrer. Ben, moi, je dis que s'ils veulent vendre en France, ils n'ont qu'à fabriquer en France, point barre. Donc, tous ces mecs-là, là, s'ils sont pas contents, ils se barrent. De toute façon, on sera pas plus dans la merde qu'aujourd'hui. Je vois pas très bien. On est au fond de la cuvette, on est en train de gratter les mailles. Donc, forcément, on ne peut que remonter. Enfin, voilà. C'est sans doute naïf, mais en tout cas, voilà. Alors, à preuve du contraire, ça m'étonnerait que la droite fasse ça un jour. Les socialos, j'ai pas l'impression qu'ils soient plus motivés. Ils sont pro-européens, etc. Donc, on a bien vu ce que ça a donné. Tous ces gens-là nous prennent la tête. J'aimerais bien que les patrons aient de nouveau un peu peur. J'en ai marre que ce soit toujours les mêmes qui, à la fin du mois, comptent leurs sous pour acheter à bouffer.
Voilà. On est au fond de la cuvette et on gratte les mailles. Merci pour tous ces messages, chers AMG, auditeurs, auditrices, modestes et géniaux et géniales. Aujourd'hui, on continue la balade dans l'état démantelé, dans l'état en cours de démantèlement, à Ambert et autour avec Charlotte Péri. Oui, on évoque dans ces messages la proximité du Front National avec des idées qui sont des idées qu'on retrouve souvent à gauche. Et il faut pas oublier qu'il n'y a pas qu'à gauche qu'on est anticapitaliste. À droite et à l'extrême droite, on trouve des courants qui s'affirme anticapitaliste et même une certaine tradition. N'oublions pas que dans Nazi, il y a national-socialiste, il y a socialiste. Et chez les néo-nazis allemands, on trouve des courants anticapitalistes et qui copient des idées tout à fait altermondialistes. Et il n'est pas rare que la droite un peu radicale, aille faire son marché à gauche, dans les bijoux de famille de gauche. Très souvent, c'est chez Jaurès, on trouve de tout. Chez Jaurès, Jaurès a tellement écrit de papiers, d'articles et fait de discours qu'au jour le jour, il est bien rare qu'on sa pensée évoluant et changeante, qu'on ne trouve pas quelque chose à se mettre sous la dent quand on s'oppose à la gauche, ou bien alors on va détrousser Guy Moquet, etc. Donc aujourd'hui, le Front National se présente avec une certaine dose d'anticapitalisme, en tout cas d'idées qui sont effectivement très proches d'idées altermondialistes. C'est pas la première fois. Déjà, le Front National de Jean-Marie Le Pen avait opté à un certain moment pour cette ligne politique. Bien sûr que certains d'entre vous voient là quelque chose de bien, d'heureux, tant mieux, et d'autres voilà une très vive et évidente démagogie. Quand le peuple ne trouve pas d'issue dans l'espoir révolutionnaire, il trouve une issue dans le désespoir contre-révolutionnaire. Cette phrase est de Léon Trotsky. Je la dédie à cet auditeur qui me déteste et qui vient de s'exprimer, à qui nous avons daigné donner la parole. Allez, on tourne la page et on s'en va en Auvergne, à Ambert et autour avec Charlotte Péri, autour du démantèlement de l'État et de ceux qui en ont conscience et qui refusent et qui se battent. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour l'équipe, bonjour les AMG de Montauban et la région. À Montauban, le thème du repère de ce mois, c'est la retirada. La retirada, c'est l'exil des républicains espagnols devant l'avancée des armées franquistes. Les fascistes de Franco qui les poursuivaient, et ils ont passé les Pyrénées bien souvent à pied. Donc le mardi 15, à 20h30, au Diablotin, 51 rue Sapiac, le copain José viendra animer notre réunion. Mais avant, le 12, le samedi, José organise la 5e marche du souvenir, parce qu'en Tarn-et-Garonne aussi, on a eu un camp d'Espagnols. Départ devant la gare de Bonredon, arrivée au camp de Jude à Sept-Fonds, 6 km à pied. En ce moment, c'est pas mal de se souvenir comment certains de nos parents ont pu échapper à la honte. À bientôt, sur la route et au bistrot.
Salut Daniel et toute l'équipe, c'est Françoise du repère d'Aner dans les Hautes-Pyrénées pour rappeler à tous les AMG des environs que notre rendez-vous mensuel aura lieu ce vendredi 11 mars vers 20h comme d'habitude autour d'un casse-croûte et puis ensuite vers 21h projection du film Construire son rêve, une incitation au volontariat et au voyage alternatif. Le film sera ensuite suivi d'un débat et voilà, nous vous espérons nombreux pour venir partager cette soirée. À bientôt.
Bonjour, c'est Clément de Rouen. Pour tous ceux qui veulent rejoindre une antenne défendant le service public, veuillez consulter le site convergence-sp.org. Convergence-sp.org.
C'est-à-dire que si par exemple vous avez un accident, que vous avez besoin d'accéder à un bloc opératoire, le plus proche.
Il vaut mieux mourir d'abord. Ouais, si on meurt, on a plus de chances d'aller au paradis que d'aller à l'hôpital. Je pense qu'il vaut mieux mourir si on a un accident. Hein ?
Il n'y a plus rien.
Si les petits collèges tombent, les plus gros suivront. Quand tous les collèges seront tombés, où iront les élèves ? Où iront-ils tous ? Où ? En ville !
Dans le privé.
Il a raison.
Le service public, on n'en parle plus du tout aujourd'hui, c'est le profit, le profit, le profit.
Nous avons perdu notre maternité, nos soins intensifs, notre bloc opératoire. Mais les choses se font très cachées. Et là, depuis quelque temps, c'est quand même un rouleau compresseur qui a attaqué le service public dans sa globalité.
Comme il y a beaucoup d'enfants qui vont rentrer en 6e dans 2 ans, ils parlent de la fermer aussi, notre école. Donc plus d'école, plus de boulangerie, plus rien.
Et c'est une autre raison d'être, c'est notre raison de vivre. Parce qu'il est bien évident que si on porte un coup au service public chez nous, c'est la vie qui s'en va. C'est vraiment la vie qui s'en va. C'est-à-dire, c'est l'impossibilité de rester une terre d'accueil.
Espérons bien qu'on maintiendra notre poste de vivrogue.
Parce qu'on tient quand même à notre canton, on tient à notre poste. Comment tenir à la gendarmerie, comment tenir à tous les services publics.
On ne demande pas le grand soir. Hein. On ne demande pas le grand soir, on ne demande pas des choses comme ça. Mais on demande de pouvoir vivre dans nos territoires, de pouvoir y vivre, y travailler, se soigner. On demande ça, on ne demande rien d'autre.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Charlotte Perry, l'État démantelé.
Flight number 2, arriving from...
Bonjour, la loi Bachelot-Sarkozy frappe de plein fouet nos hôpitaux, nos maternités. C'est tout notre service public de santé qui se détériore, tant pour celles et ceux qui en ont besoin que pour celles et ceux qui y travaillent. Les franchises médicales, les déremboursements, les dépassements d'honoraires, les restructurations hospitalières, les privatisations, le démantèlement de la sécurité sociale, la réforme de la dépendance, la mise en place de la psychiatrie remettent en cause l'accès aux soins pour des millions de nos concitoyens. à Amber, sous-préfecture du Puy-de-Dôme en Auvergne. Nous avons perdu notre maternité. La psychiatrie n'a plus de psychiatre. Du bloc opératoire tout neuf, on a chassé les chirurgiens et les anesthésistes et mis à profit cette opportunité pour réduire les temps d'ouverture de cette structure. Le mariage de raison imposé avec l'hôpital de Thiers, situé à 53 km, a du mal à être consommé. L'agonie continue. On subodore depuis cette semaine la fin des actes opératoires sous anesthésie totale, ce qui induit la fermeture du bloc opératoire et une diminution importante, voire totale, des lits en chirurgie. Parallèlement, la radiologie locale doit fermer son activité pour cause de retraite et nous avons des craintes sur les prélèvements sanguins dans les cabinets d'infirmiers libéraux. Plus de tribunal, nos écoles rurales ferment, nos bureaux de poste disparaissent, nos collèges ruraux sont fragiles. On a même voulu nous supprimer nos gendarmes. Notre cas, il n'est pas le seul, est typique de l'étouffement d'une collectivité de citoyens qui veut vivre en dehors des grandes métropoles, vivre, se former, travailler, se soigner au pays. Ce qui se passe chez nous est un cas d'école. Le modèle libéral s'applique dans toute sa cruauté. Si ton calendrier le permet, Daniel, à toi et à ton équipe, viens, venez dénoncer avec nous la lente agonie d'un territoire de vie. Merci.
C'est curieux quand même, hein. C'est curieux. On s'est félicité de ce modèle français. Il y a guère de temps, modèle français qui nous a permis de résister aux dérives du capitalisme financier qu'on a appelé la crise. Et ben, ça n'a pas empêché le gouvernement de poursuivre son grand plan de destruction des services publics. Et ce grand plan, il ne faisait que de poursuivre les plans précédents de destruction de ces services publics en vue de leur privatisation. Il y a eu EDF, il y a eu France Télécom, Air France et beaucoup d'autres. Et il y a la Poste, ce qui entraîne la désertification de milliers de bourgs et de villages. Bientôt, ce sera la SNCF, bientôt la RATP. Ce que nous avons montré et démontré, que vous savez, c'est que tout ça, c'est une affaire d'idéologie. La privatisation, ces privatisations organisées depuis si longtemps, sont dues à une façon de concevoir la société, la vie, le monde, la politique, et que on pourrait faire autrement. Il y a des choses curieuses dans les sondages. On a eu des sondages là récemment qui ont fait qui font grand bruit, qui ont fait grand bruit, même si des sondages à nouveau publiés contredisent les précédents. Peu importe, ça crée beaucoup de bruit et de commentaires et d'émissions et de radio, de télévision, d'articles, etc. Et c'est assez curieux parce qu'il y en a un certain nombre qui n'ont aucun écho, qui pourraient avoir des échos, avec toujours la même suspicion, bien sûr, sur les sondages. Mais enfin, en termes d'écho, le 25 janvier, La Croix publiait un sondage IFOP pour La Croix, indiquant que 33% des Français sont opposés au système capitaliste. Ils jugent qu'il faut abandonner le système capitaliste. 33%, c'est quand même énorme. Les Français, selon ce sondage, sont fâchés avec la mondialisation. Il faut désormais abandonner le système capitaliste. Et de tous les pays interrogés, car ce sondage avait été fait dans nombre de pays, eh bien, nous sommes les plus anticapitalistes comparés aux États-Unis, comparés à l'Allemagne. Partout, une majorité de l'opinion juge fortement probable qu'une nouvelle crise économique éclatera dans les prochaines années. C'est quand même pas mal. C'est le cas pour 9 Français sur 10. Les trois quarts des Chinois et les deux tiers des Néerlandais. Et il y a désormais, toujours selon ce sondage, une demande très forte pour plus de réglementation. qu'il s'agisse d'obliger les entreprises qui délocalisent à rembourser les aides publiques qu'elles ont touchées, 92% des Français sont pour, 87% des Allemands et 73% des Américains, qu'il s'agit de taxer des produits provenant de pays pratiquant un dumping social, fiscal ou environnemental. De plus en plus, en conclusion, le clivage entre les élites et les populations est désormais assez net sur tous ces sujets. Il y a une vraie attente des populations pour la mise en place de nouvelles règles du jeu, voire d'un peu de protectionnisme. Alors, encore une fois, je souligne qu'il s'agit de douter fortement de sondages. Mais ce qui est assez curieux, c'est que celui-ci, celui que je viens de citer, n'a pas eu le même écho que celui concernant la position du Front National ces jours derniers. C'est pas mal quand même, hein. On pourrait peut-être se dire qu'il y a une certaine part de vérité dans celui-là, au moins sur un point, c'est l'opposition entre des élites, entre une oligarchie et un peuple pris dans sa multitude, qui sont vraiment de plus en plus antagonistes. Une oligarchie qui veut imposer sa vision du monde, défendre ses intérêts contre une population de plus en plus désorientée, résignée, mais on va le voir, pas toujours et pas uniquement. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis. On est au fond de la cuvette et on gratte les mailles.
Dans chaque village, on connaît le facteur. C'est un personnage qu'on porte dans son cœur. Recevoir une lettre, vous mettez en émoi. Chacun se dit peut-être... Il y en a une pour moi, voilà pourquoi, quoi, quand le chien aboie, quoi, tout le monde s'agite avec joie. Tiens, voilà le facteur, à cheval sur son vélo, à côté quand ça monte trop. Tiens, voilà le facteur, et pour les petits très urgents, en courant, il prend son temps. Quand il roule rapidement, ce n'est pas pour un urgent. Mais c'est tout simplement parce qu'il est poussé par le vent. Voilà le facteur. Quand il roule un peu penché, c'est qu'il porte une lettre chargée. Sacré facteur. Et lorsque vous restez quelques jours sans courrier, chez vous quand même il vient pour vous dire aujourd'hui y a rien. Voilà le facteur. Venez boire à ma santé, vous l'avez bien mérité. Merci bien, facteur, et à demain.
Je m'appelle Michel Vialard. Moi, j'habite à Idisol. C'est à 3 km en allant sur Vervivrolles. Il y a 5 ans que je suis facteur rouleur, d'abord sur Ambert, puis après je suis venue à Saint-Anthème et Vivrolles.
Facteur rouleur, c'est quoi?
C'est-à-dire qu'on remplace sur toutes les tournées. Il y a 17 tournées en Ambert. Donc j'en ai pas appris 17, mais j'en ai quand même appris 11.
Vous êtes originaire d'ici?
Oui, oui. Mon mari aussi. Mais avant, on habitait à Clermont. Voilà, on est resté pas mal de temps à Clermont. Et puis mon mari a été muté ici. Enfin, il avait demandé à Ambert. Donc moi, je suis venue avec lui. C'est là que je suis rentrée à la poste. En fait, je suis rentrée à la poste en 92, mais au début, j'avais des petits contrats comme ça. Et puis après, en 2002 à peu près, j'ai eu un CDI. Voilà, là, j'ai une dame à qui je donne le journal. Oui, voilà.
Bonjour.
Ça va?
Ça va, oui. Bien sûr.
Alors la dame, alors... elle a son journal tous les jours, on vient la voir. Là.
Tous les jours? On a la chance et puis on a un multiservice.
Ouais.
Alors avec un multiservice, c'est vrai que dans nos campagnes, c'est formidable. En même temps, ils font la poste,
oui.
Mais bon, bah, oui. C'est parce qu'on va le plus, parce qu'on a notre factrice qui vient, on a la poste à Vivrolles. Il faut quand même aussi maintenir notre poste à Vivrolles. C'est ce qu'on souhaite, hein. Parce qu'on tient quand même à notre canton, on tient à notre poste, on tient à nos... Comment tenez à la gendarmerie, comment tenez aux...
à tous les services publics. À tous les services publics. Il y avait avant les impôts, que je trouve pas, la trésorerie,
oui,
la trésorerie,
la perception,
et la perception, et que nous n'avons plus. Ouais. Et maintenant, il faut aller en berre. Ce qu'on souhaite, c'est garder quand même nos administrations, notre service public.
Est-ce que ça disparaît, là, les services publics?
Moi, j'ai enlevé ma viande parce que je vais manger de la viande toute brûlée.
D'accord.
Mon mari est décédé depuis très longtemps. Mais moi, je ne suis ici que depuis ma retraite. Hein. Et peut-être bien que je finirai pas tout à fait ma carrière là, mais enfin, on va voir.
Ben, merci beaucoup.
Voilà, au revoir.
Bonne
au revoir.
À demain.
À demain.
Voilà, les gens aiment bien discuter, parler un petit peu, même si on ne dit pas grand-chose. Voilà. Bon, alors là, on quitte le bourg de Saillant et on va monter un peu, on va commencer les villages.
Ça, c'est une Vierge Marée, là?
Oui. D'abord, il y a des vierges partout, des croix, tous les chemins, il y a des croix. C'est une tradition ici. Là, on est sur la route de la Cholme. Alors là, c'était un village. Et ben, il ne reste plus qu'une personne, que ces gens-là, qui habitent toute l'année là. On ne va plus là-bas, dans le village, vraiment le cœur du village. Là-bas, on n'y va plus. Il n'y a plus que...
Ah, il n'y a plus personne dans le village
non.
Même.
C'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de villages où l'hiver, ben, il n'y a plus grand monde. Hein. Il y a même des villages où on ne va plus du tout, quoi.
Le Semeur, c'est quoi ?
Le Semeur, c'est un petit magazine local. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés. Voilà, le Semeur Hebdo. Il y a des nouvelles sur la région. Beaucoup de gens qui sont abonnés. Oula, le Semeur, c'est aussi important que le journal. C'est le vendredi, s'ils n'ont pas le Semeur, le vendredi, ils sont perdus. Ils aiment bien. Voilà, le Semeur et le journal, cette dame. Elle a le journal tous les jours. Le Progrès, le journal de la Loire.
C'est la nouvelle factrice ?
Non, c'est une journaliste de France Inter.
Alors, qu'est-ce qu'elle nous veut ?
Je suis la factrice en tournée.
La factrice, ça aide beaucoup, c'est vrai. Quand on a besoin de timbres ou d'importe, eh ben, nous les apporte, c'est vrai. Ou quand on a à payer quelque chose, eh ben, on le donne à la factrice, elle nous... Et quand on veut refaire tirer de l'argent, c'est pareil.
On apporte de l'argent aussi aux gens.
Et moi, je conduis pas, vous comprenez. Moi, je sais que je compte pas sur la factrice, ça passera plus. Moi, je voudrais que la poste, voyez, elle tienne, qu'elle reste. Si un jour elle part, on ira où?
Bien sûr.
C'est les personnes âgées, ils n'ont rien de plus.
Ouais, ouais.
C'est bien, moi, j'ai dans un village. Surtout, nous, on est loin, enfin, de vivre.
Oui, oui.
Saint-Antin, ben, c'est pareil, ça nous fait 10 km.
Ah oui, ça fait loin, hein.
Eh ben, sans voiture, voilà. Moi, je peux pas y aller. Moi, c'est que le facteur, ben, pour la Noël, moi, je donne son étreinte. Il a
le bon calendrier, oui, voilà. C'est important, les calendriers.
Ah, le calendrier, c'est tout.
Oui.
Le facteur, c'est tout, moi, je dis. C'est quelqu'un qu'on voit tous les jours. Mais il y a des jours qu'on s'est calme. Hein.
Oui, c'est vrai, c'est calme.
Regardez comme l'hiver. Mais quand la facture s'est passée, on ne voit plus personne.
Et oui, voilà.
Vous êtes de la région? Non, je ne suis pas d'ici. Moi, je suis de la Loire. Je suis du côté de Saint-Rambert. Et moi, vous voyez, je me suis mariée et j'ai resté en Auvergne. On avait habité Saint-Bonnet, mais mon mari ne pouvait pas s'habituer. Pas lui. C'était la chasse, c'était de courir là mes bois. On s'est mariés et je suis restée là. Mais maintenant, je suis toute seule. Enfin, j'ai bien ma fille, mais bon. Quand on est quand, on est quand. J'étais bergère. Mes parents avaient des vaches, des moutons et des chèvres.
Oui.
Le jour où je me suis mariée, ma mère, elle m'a dit, si tu t'en vas, on vend les moutons. Alors, je me suis mariée et les moutons, ils sont partis à la foire. Quand je suis arrivée ici, le pépé, la mamie, il y avait encore 4 vaches, là, des chèvres. Alors ma belle-mère, c'est parce qu'il est arrivé, elle a tombé, elle s'est décassée sa hanche. Alors après, il a fallu qu'elle se fasse opérer. Et nous, on était à Saint-Bonnet. Mais on ne voulait pas laisser le pépé tout seul.
Et oui.
Alors regardez ce qu'on a fait après. Ben, on est là, on est là-bas. Puis après, le René m'a dit, moi, ça m'énerve toujours faire la navette. Alors on a resté là. On a resté avec le pépé, la mamie.
Voilà.
Et j'ai resté quand même 22 ans avec mes parents et 22 ans avec ma belle-mère.
Ouais.
Ça, c'est des choses, bon, on s'en rappelle bien.
Voilà.
Ben, voilà comme je suis venue ici.
Et c'est à vous les poules aussi, là, qu'on voit, là. C'est vous qui avez des poules.
Voilà, d'accord. Ça me tient compagnie, mes poules.
Oui, bien sûr. Ouais.
Il faut s'occuper.
Bien sûr.
Bon, ben, je fais un petit peu du jardinage. Et puis, maintenant, on va me rentrer mon bois. Ben, en passant tout l'été, là, ben, je vais rentrer mon bois pour l'hiver.
Ben oui, bien sûr.
Voilà la vie en campagne. Vous savez pas ce qu'il disait, mon beau-père, autrefois?
quand on avait fait les fenaisons, qu'on avait fait les moissons, qu'on avait ramassé les pommes de terre et qu'on avait tué le cochon, et ben après on pouvait rouler la sampote à la cave et on pouvait passer l'hiver. Non mais ils étaient pas bêtes, n'empêche.
Ben, c'est sûr. Voilà.
Bonne Merci journée. Beaucoup.
Allez,
bonne journée.
Bonne journée toutes les deux.
À une autre fois.
Au revoir.
Voilà la tournée autour d'Ambert dans cette Auvergne isolée. Bon, ça fait longtemps que ces régions sont des régions difficiles, mais quand même on trouve des mémoires, on trouve des histoires, on trouve un lien avec le passé. Combien ça vaut la conversation qu'on vient d'avoir, ça? si on parle en termes de rentabilité, hein, on aurait pas passé plus de temps avec cette ancienne bergère, elle nous en aurait dit des choses. Quelle est la valeur de ces choses dites, de cette transmission, de ces savoirs, de cette culture là qui est là et qui disparaît absolument si on reste sur le seul et unique principe de la rentabilité. Une certaine rentabilité, pourquoi pas, mais pas comme principe numéro un, ou alors à choisir, ou bien on met la rentabilité en avant, ou bien on met la bergère en avant, et la mémoire de la bergère en avant. C'est des choix qu'on peut faire, c'est pas joué. C'est nos choix. À chacun de choisir ce qu'il veut. Rien n'est imposé, tout est encore ouvert à nous de choisir.
Là, c'est un autre village. Là, Saillant est là-bas, en fait. On tourne autour de Saillant tout le temps. Hein. Moi, je suis à temps partiel, là. J'étais à mi-temps, là, je suis passée. Mais c'est voulu, c'est après une maladie. Hein. C'est moi qui ai demandé. J'étais à mi-temps et là, je suis repassée à 75% pour le moment. Quand, bon, mais quelqu'un qui rentre, c'est un petit peu plus que le SMIG. À temps plein, ça doit être 1 300 €.
Mais on vous autorise encore comme ça à rendre service aux gens en leur amenant l'argent ou les choses comme ça ?
Oui. Pour leur amener l'argent, oui, bien sûr. On a le droit d'amener de l'argent jusqu'à 150 €.
Parce que la Poste, c'est toujours un service public ou maintenant c'est une entreprise vraiment privée ?
Là, en 2011, on s'est ouvert à la concurrence, au 1er janvier 2011. Donc c'est sûr que maintenant, normalement, on a des concurrents. Mais bon, à la campagne, on n'en voit pas beaucoup. Hein. Peut-être qu'en ville, sur les colis, si on en voit sur les colis, si aussi, quelques privés. Mais bon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Sur le courrier, il n'y en a pas de toute façon. Hein. Vu les kilomètres qu'on fait, bon, c'est vrai qu'après, ça serait pas rentable, c'est sûr. Je vous laisse là, alors ?
Ouais, parfait. À bientôt, au revoir.
L'ouverture à la concurrence du marché du courrier, c'est valable également pour la France, mais pas de panique.
RTL.
Le bastion de la Poste n'est pas menacé.
2 janvier 2011.
Oui, pour l'instant, c'est un flop. Le marché du courrier est en perte de vitesse, les volumes à transporter se rétrécissent de 4% par an. Personne n'a vraiment envie de concurrencer son voisin. D'ici à quelques mois, des niches pourraient quand même attirer des opérateurs spécialisés, comme la distribution du courrier dans les quartiers d'affaires, la Défense par exemple, ou le traitement du courrier des banques. La Poste continuera d'assurer ce que l'on appelle le service universel, passage du facteur 6 jours sur 7, une présence postale partout en France, le timbre au même prix quelle que soit la distance dans l'Hexagone. La concurrence, de toute façon, ne pourra qu'améliorer le service rendu, estime le patron du courrier à la Poste, Nicolas Routier.
C'est une exigence supplémentaire. Puisque nous sommes totalement en concurrence, nous devons garantir à nos clients une qualité impeccable.
Sinon, vous pourrez toujours dire à votre facteur que vous le quitterez dès qu'un concurrent se présentera.
Je m'appelle Martine Dogno et je suis responsable régionale de Sud PTT sur l'Auvergne.
Moi, je suis Jocelyne Boyer, facteur à Ambert.
Moi, Anne-Marie Bonnard, facteur à Saint-Gervais-sous-Mémont, rattachée à la Poste de Vertolaye.
Depuis le 1er mars 2010, c'est une société anonyme. Pour autant, le statut d'entreprise, elle est toujours chargée d'une mission de service public, mais au sens de la directive européenne, c'est-à-dire distribuer le courrier dans tous les points du territoire 6 jours sur 7, avoir des bureaux de proximité qui puissent assurer les services de base de la Poste, et puis voilà, c'est tout. Il y a de plus en plus de services à rendre aux clients, comme ils disent, mais payants. Donc ça veut dire, quand on allait en zone rurale, normalement, les facteurs, ils rendent service aux gens qu'ils connaissent. Donc ils amènent les médicaments, ils peuvent amener la baguette de pain. Et ben là, c'est plus possible. Le portage des médicaments, ça doit être payant. Donc il doit y avoir un contrat entre le pharmacien et la poste. Et à ce moment-là, si la dame veut se faire livrer ses médicaments, ben elle doit payer.
C'est le pharmacien qui paye. Les contrats sont faits de telle sorte que, enfin, bon, normalement, c'est le pharmacien qui paye. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui paye. Un envoi de médicaments, c'est autour des 4 euros. Et à l'avenir même, enfin, ce qui est dit, hein, à l'avenir, le contact qu'on a avec les clients, le temps qu'on passe avec les clients, si on rentre chez eux, ce service-là, ils veulent à l'avenir le faire payer pour, par exemple, les personnes âgées. Si les personnes âgées sont seules, pour qu'il y ait au moins une fois par jour la présence d'une personne, donc le facteur. Et ce service-là serait payant. C'est dans les projets de la Poste.
Quel type de service, par exemple?
Eh ben, c'est notre présence, simplement, notre présence, de voir si la personne va bien, surtout si c'est une personne âgée.
Et vous savez, quand il y a eu la canicule, les contrats étaient passés aussi pour que le postier, puisqu'il passe partout, mais ce service-là était aussi payé à la Poste, passe chez les personnes âgées, voir si tout allait bien, si elles étaient pas malades, si elles respiraient bien, si... et voilà, s'inquiéter de leur santé, quoi, tout simplement. Mais ça, c'était même pas un service gratuit, quoi, ce qui est scandaleux.
Ce qui est grave, c'est que normalement, ça va de soi. En tant que facteur, c'est du social aussi. Et ça va de soi que de s'arrêter chez les gens, de prendre un petit peu de leurs nouvelles, ça dure 30 secondes et puis basta, quoi. Mais maintenant, c'est vrai que ça va devenir.
C'est le service public nouvelle mode.
Ils vendent tous les combats d'hier, les acquis des grands-pères. Ils vendent ce qu'ils rejettent, tous leurs déchets nucléaires. Ils vendent des dictatures et de l'or noir dans les assiettes, des mètres cubes d'air pur, et ils ont décidé que ça s'achète.
Ils vendent même le sacré, le visage des guerrieros, les slogans des révolutions en période de promo. Ils vendent les symphonies aux opérateurs de mobiles, aux pays du tiers-monde, ils vendent leurs vieilles automobiles.
Ils vendent tous les progrès passés et leurs vieilles maladies, ne dévoilent jamais les secrets de leur belle pharmacie. Ils vendent la solidarité, les pièces jaunes des grands-mères, préfèrent la charité, ont inventé l'humanitaire.
Ils vendent coûte que coûte tout ce qui leur coûte et même l'écoute. Vendent tous les engagements, même les mots, leur langagement. Ils vendent à coup de publicité des espoirs sans lendemain au public des cités à qui ils ont lié les mains.
Ils vendent la peau de l'homme bien avant de l'avoir tué. L'ours, le loup et l'orme sont des espèces du temps passé. Ils vendent des marées noires et sacrifient les littoraux. Dans l'arène des gueulards, ils vendent l'agonie des taureaux.
Ils vendent de vieilles constitutions aussi malades que leur système. Ils condamnent la contestation dans des tribunaux qu'ils enchaînent.
Ils vendent depuis toujours le travail des travailleurs. On vend du vieux jour des mouroirs comme dernière demeure.
Alors voilà, il est 13h30 et on se trouve dans la zone industrielle d'Ambert, un peu à l'extérieur de la ville. C'est une journée froide et grise, il y a une petite brume fine qui tombe, un brouillard épais qui s'est abattu sur les collines. Et on est venu ici parce que dans la zone industrielle se trouvent les Restos du Cœur d'Ambert. Selon l'INSEE, plus d'un Auvergnat sur 8 se trouve sous le seuil de pauvreté. Et l'Auvergne fait partie d'une des régions les plus pauvres de France. Alors on va se diriger vers les Restos du Cœur, qui se trouvent donc dans une petite rue, dans la zone industrielle, derrière une fabrication de céramique.
Voilà, ville morte, campagne déserte, mais pas du tout. Il y a des endroits où il y a beaucoup de monde.
Bonjour. Voilà, on offre le café aux gens, un petit peu d'accueil, on leur remonte un peu le moral s'il y en a besoin. Voilà.
Ils donnent déjà du travail.
Qu'est-ce que vous me disiez ?
Je disais, il faut que les riches donnent un peu aux pauvres, il y en a ras-le-bol, quoi.
Non, mais déjà de l'emploi, et puis ça serait déjà bien. Parce que s'il y avait de l'emploi, ben les gens, il y aurait beaucoup moins de gens ici à venir commander, là, ça c'est clair. Hein. Ça, faut pas croire que ça fait plaisir à... Ça nous fait plaisir de venir ici, c'est clair, ça.
Vous êtes à la recherche d'un emploi?
Non, je suis en retraite, mais je travaillerai encore. S'il faut, mais j'ai deux gamins qui sont à l'école encore. Alors, c'est ça le problème.
Moi, je suis à la recherche d'un emploi, mais bon, il n'y en a pas, quoi. Ici, c'est que des contrats d'insertion, des petits contrats de 20 heures par semaine, quoi. Donc, pour vivre, après, c'est impossible avec 700 euros. Non, mais bon, c'est vrai que la région, elle est vachement sinistrée, parce qu'on est quand même une sous-préfecture. Au niveau, par exemple, des transports des bus, on a un quart le matin et le soir, quoi. On est quand même une sous-préfecture. Il n'y a pas de train. Premier train, c'est 50 km, Pont d'Or.
Et bientôt plus d'hôpital.
Donc, on est une sous-préfecture en train de mourir, quoi.
Voilà. Je vais vous donner deux, trois exemples. Pour avoir un rendez-vous avec un kiné, il faut attendre un mois et demi.
Deux mois, j'ai appelé ce matin. Ouais. Deux mois.
Pour avoir un rendez-vous à un dermatologue, il faut attendre pratiquement un mois, alors que l'autre, il est en train de se peler les mains. C'est Ambert, c'est en train de se perdre.
Monsieur Dréan.
Ouais. Et vous êtes d'Ambert?
À côté, 10 km. Mm.
Vous êtes originaire d'ici?
Non, mais ça fait 20 ans que j'habite là. Donc un peu auvergnate de cœur, on va dire.
Vous appelez comment?
Caroline Revaux. On est hyper sinistrés, quoi. On est hyper sinistrés ici. Oui, on est en train de mourir, quoi. Bon, en plus, la population est quand même vieillissante. Et du fait qu'il n'y ait plus de maternité, les gens vont plus venir s'installer ici. Donc, ça va être encore plus vieillissant. Puis, bah, il n'y aura pas du tout de boulot, quoi. Donc, bah, on est mal barré, quoi. Voilà.
Vous vous appelez comment, votre prénom?
Je m'appelle Valérie.
Et vous êtes bénévole au Resto du Cœur?
Pas non, du tout. Elle est bénéficiaire.
Vous êtes bénéficiaire aussi?
Oui. Moi, je vis seule avec mon enfant. Je n'ai pas d'aide, puisque ayant un enfant, j'ai pas droit aux allocations. Le père de mon fils me verse pas de pension alimentaire. Et c'est pas évident de se dire un jour, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Il faut y aller. Et la première fois que je suis venue, mais j'étais en larmes. En larmes, en larmes, en larmes. Et même si je donne l'impression de quelqu'un qui est très sûr d'elle et tout, c'est pas du tout le cas, parce que ça me fait encore mal au ventre de venir là. Mais je me dis, peut-être qu'un jour ça s'arrêtera. Du travail, je demande qu'à travailler, mais bon, il n'y en a pas. J'ai écrit une vingtaine de lettres et de mails depuis le début de l'année. Personne répond. Donc, je sais plus quoi faire, quoi. Et ce qui m'embête le plus, c'est que j'ai un enfant qui aime apprendre. J'aimerais pouvoir lui offrir des études comme il mérite. Et ma hantise, c'est d'un jour de pas pouvoir arriver à payer et qu'il soit obligé d'arrêter ses études. Ça, j'arrive pas.
Vous avez des enfants scolarisés?
Oui, j'ai un enfant scolarisé en sixième. C'est un collège qui est menacé, oui. Donc oui, je me bats parce que si tout le monde déserte les collèges ruraux, il y aura plus de travail, il y aura plus rien. C'est un cercle vicieux. Les collèges, ils les ferment dans les milieux ruraux et à côté de ça, ils vont construire des établissements sur Clermont où ils sont surpeuplés et où les classes, c'est plus de 30 élèves par classe.
C'est vrai ce que tu dis, Valérie, parce que un enfant qui va étudier dans une classe où il y a peu d'enfants, il aura moins d'échecs scolaires, alors qu'un gamin de banlieue lyonnaise ou parisienne ou de banlieue de ville tout court, il va galérer parce qu'il y aura 40 élèves par classe, quoi. Donc s'il a une marge de retard, on va le laisser dans sa marge de retard qu'il n'arrivera jamais à rattraper.
Et vous, dans la classe de votre fils, ils sont combien d'élèves?
À l'heure actuelle, ils sont 20 élèves. Alors j'espère que la réunion qui a lieu jeudi, elle apportera quelque chose. On se bat peut-être pas pour nos enfants tout de suite, mais au moins pour les générations futures. Parce qu'il faut aussi penser à eux. Les gens qui sont venus dans la région, qui ont fait construire, qui ont mis toutes leurs économies dans leur maison parce que ils ont trouvé un boulot et voilà, ou qui se sont installés, je pense aux artisans, aux agriculteurs, toutes ces personnes-là, et qui vont finir par couler parce qu'on leur laisse pas le choix.
Donc ça fait quand même beaucoup de choses qu'on fermait en très peu de temps.
Donc là, c'est la chirurgie qui est plus ou moins en train de fermer.
Elle va fermer. La réa a fermé. Là, il parlait de fermer quoi aussi?
Le bloc,
voilà.
Ça veut dire que si, par exemple, vous avez un accident, que vous avez besoin d'accéder à un bloc opératoire, le plus proche,
c'est... Il vaut mieux mourir, d'abord. Ouais, si on meurt, on a plus de chances d'aller au paradis que d'aller à l'hôpital. Je pense qu'il vaut mieux mourir si on a un accident. Hein?
Il n'y a plus rien. C'est la folie, c'est un monde de folie. Je sais pas où on va. Des fois, je me dis qu'il faudrait faire une comme en mai 68, tout faire péter.
Faire la révolution,
tout faire péter. On irait, hein.
La révolution. Ah, moi, je suis la première. Hein.
Bon, bah, allez, on y va.
Ouais, on va y aller. Bon, ben, en tout cas, merci beaucoup.
Merci à vous. Vous aussi, au revoir.
1200 personnes selon la police.
Télé Toulouse.
2000 selon les syndicats se sont mobilisés ce matin.
11 février 2011.
Contre les suppressions de postes à la rentrée prochaine et contre la politique gouvernementale en matière d'éducation.
Quand on supprime 30 000 postes sur 3 ans, ça finit par se voir.
En Haute-Garonne, 43 postes seront supprimés à la rentrée prochaine, tandis que 1200 élèves de plus sont attendus. De probables suppressions de classes inquiètent également les enseignants, notamment en milieu rural.
Pour nous, c'est très important de garder nos écoles à proximité, parce qu'après, ça veut dire des kilomètres pour les familles, voilà, et ça se joue à un ou deux élèves près pour l'instant, donc on va vraiment se battre pour garder ce poste-là.
Alors voilà, on est jeudi, il est 19h et on vient d'arriver à Saint-Dié d'Auvergne, à une heure environ d'Ambert. C'est fou, il y a des voitures partout, partout, partout. Le parking est plein, il y a des voitures garées des deux côtés des trottoirs. Et là, on est en train de se diriger vers la salle de la briqueterie, où se tient une réunion organisée par le collectif de défense et de développement des services publics concernant l'avenir des collèges ruraux. L'inspection académique veut regrouper 4 collèges et créer un multisite, ce qui provoque un vif émoi dans la population qui craint qu'à terme, ce projet aboutisse à la fermeture des collèges. Alors là, on se trouve devant la salle de la briqueterie et on va rentrer parce qu'on est un petit peu en retard et la réunion doit avoir déjà bien commencé.
Pour la rentrée scolaire prochaine, le statut des établissements du réseau rural d'éducation du Livradois n'est pas amené à évoluer. Donc c'est un recul. La réclame significative du recteur qui est à mettre à l'actif de la mobilisation. Donc là, encore une fois, je pense qu'on peut s'applaudir parce que c'est grâce à nous qui refuse. Et ceci dit, c'est une petite reculade. C'est une petite reculade et bien évidemment, son objectif à travers ce communiqué, c'est de nous démobiliser. Or, j'espère que ce soir on va discuter, mais il faut qu'on reste mobilisé, qu'on se mobilise encore plus demain pour faire en sorte que nos enfants aient le collège de qualité qu'il faut et de proximité pour leur réussite scolaire. Donc je ne vais pas en dire plus. Voilà, alors maintenant, vous avez la parole, j'espère qu'on va pouvoir débattre. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un aussi, deuxième problème technique, quelqu'un qui puisse assurer la circulation du micro sans fil.
Aujourd'hui, je vais parler au nom des collégiens, tout au moins ceux de Saint-Dié. À tous, camarades, pour nous en sommes, nous n'en avons plus aucune chance de discussion avec ceux qui menacent. Aujourd'hui, notre seule chance, notre dernière chance, c'est de se mobiliser. Et si les petits collèges tombent, les plus gros suivront. Quand tous les collèges seront tombés, où iront les élèves? Où iront-ils tous? Où?
En ville. Dans le privé.
Ah. Il a raison, il a raison. Oui, ils iront en ville, c'est ce que veut le recteur. Et vous savez aussi ce que ça peut signifier pour leur réussite scolaire d'aller en ville, d'aller loin, dans des classes surchargées, pour acquérir des bases qu'ils auraient pu acquérir ailleurs, près de leur lieu de vie. À quoi ça va leur servir? À rien. À rien.
Mais vous êtes parent d'élève, c'est ça?
Je suis parent d'élève au collège de Liac. Collège de Liac, donc le deuxième collège à fermer dans le collimateur de Liac, quoi.
L'inspection académique. Voilà. Et donc vous, c'est un collège qui a combien d'élèves à peu près?
Une centaine. De toute façon, ils veulent détruire le territoire. Je ne sais pas s'ils veulent créer des grandes chasses comme en Sologne ou quoi, mais nationales. Mais ils veulent nous détruire, qu'il n'y ait plus un rat sur le secteur. C'est catastrophique, ça. On veut détruire l'agriculture, on veut tout détruire. Quand il n'y aura plus personne, ce sera très bien. Il n'y aura plus de frais, il n'y aura plus besoin d'entretenir les routes, ça arrangera tout le monde.
Vous faites quoi dans la vie?
Je suis agriculteur. Je fais partie de ces gens qu'on appelle les CSP défavorisés. Parce que tout agriculteur est CSP défavorisé. Eh ben, on n'a pas des revenus suffisamment importants. Donc, on a des élèves qui sont pas bons à l'école. Donc, on a tout ce qui va pas. Et c'est vrai qu'au Liergue représente une 50% d'élèves dans cette situation-là. Et Saint-Amand aussi. Et c'est ce qu'on nous fait ressentir à l'académie toutes les fois. Ah, vous avez beaucoup de CSP défavorisés. Mais moi, je suis fier de l'être parce qu'on nous contraint à l'être. Donc, il n'y a pas de souci.
CSP, dites-moi, c'est quoi ?
Catégorie socio-professionnelle.
Vous faites quoi comme culture ?
Je suis agriculteur, éleveur de bovins viande, donc on sait, tout le monde sait que ça gagne beaucoup à l'heure actuelle.
Monsieur le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État.
La chaîne parlementaire.
Monsieur le président, mesdames et messieurs les députés.
Éric Woerth.
Il y a trop de dépenses publiques en France.
24 juin 2009.
Nous en sommes à peu près tous d'accord, j'imagine. Nous avons un niveau de dépenses publiques qui est plus important que le niveau de dépenses publiques que connaissent la plupart des grands pays industrialisés. Seule la Suède est à peu près au même niveau que le nôtre. Nous avons donc besoin de progresser pour essayer de faire en sorte que la qualité du service public soit rendue à un juste coût. C'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Et nous allons continuer et amplifier cette révision générale des politiques publiques. Le président de la République nous demande d'aller à la fois beaucoup plus loin, d'aller à la fois beaucoup plus vite. D'ici quelques semaines, je vous proposerai une nouvelle liste d'organismes inutiles à supprimer.
Organismes inutiles à supprimer. Voilà le plan bien connu du gouvernement à travers la voix d'Éric Woerth. On va finir ce reportage. Il faudrait continuer. On pourrait être dans 50, 100 endroits comparables où les problèmes et les sujets sont comparables en France aujourd'hui. Rencontre avec André Chassaigne, qui est député communiste du Puy-de-Dôme. On le rencontre à Saint-Amand, Roche-Savine.
Il y a deux conceptions d'aménagement du territoire. Il y a le drainage et il y a l'irrigation. Le drainage, ça consiste à prendre les ressources, les flux, ça peut être les flux financiers, les productions, et les conduire vers les zones qui sont les zones de compétitivité, considérées comme étant compétitives, c'est-à-dire notamment les villes, là, véritablement, où on pourra faire de la performance, où il y aura moins de coûts, soi-disant. Et donc ça, c'est la conception d'aménagement du territoire qui est mise en œuvre aujourd'hui. Moi, pour ma part, je préfère l'irrigation. C'est-à-dire qu'au contraire, on irrigue le territoire. Et que la richesse, elle va venir d'un territoire vivant. Et je suis persuadé que à l'échelle de... Ça paraît un peu ambitieux de dire ça, mais à l'échelle de l'histoire, c'est catastrophique de désertifier des territoires, parce que ces territoires, ils ont de l'avenir en termes de qualité de la vie, en termes d'équilibre social. On vit à notre niveau ce qui se fait dans les pays du Sud, avec la disparition de l'agriculture vivrière pour des grandes multinationales qui font de la monoculture, qui vont par exemple importer chez nous des agrocarburants pour se donner bonne conscience en mettant 10% d'agrocarburants dans notre carburant, hein, avec la suppression des cultures vivrières qui est en fait organisée par les multinationales pour se faire de l'argent. C'est des populations entières qui se massent dans les agglomérations dans les pays du Sud. Et avec une situation qui est invivable en termes de malnutrition, en termes de famine, en termes de violence, c'est quelque chose qui est invivable. Et bien chez nous, quand on regarde bien, le phénomène est guère différent, où on accumule des populations autour des villes, et avec des barils de poudre, en fait, avec une impossibilité de trouver un équilibre social. Une impossibilité, avec une situation qui s'aggrave. Or, on accentue le problème. Moi, ce que je dis, c'est qu'on a intérêt à avoir un territoire équilibré, une population qui est répartie sur le territoire, avec donc des bourgs-centres dans les territoires ruraux, avec des services publics, avec une vie culturelle, avec des loisirs, avec une qualité de la vie, et donc avec des emplois, parce que c'est ça qui est important, avec des PME, des petites et moyennes entreprises, avec une agriculture qui puisse vivre de sa production, avec des circuits courts, des circuits de proximité, avec une économie que l'on va construire au plus près des populations et répartie sur le territoire. C'est ça. Alors, est-ce que c'est rêvé que de dire ça ? Est-ce que c'est rêvé que de dire ça ? Et je suis persuadé qu'en plus de ça, c'est l'efficacité historique de faire ça. Enfin, c'est incroyable qu'on ait de l'argent, on bougie tout, quoi.
« Merci à André Chassaigne, Olivier Heuner, à Caroline Révaux et à Valérie, à Michel Laurent, notre auditrice, qui nous avait alerté sur la situation autour d'Ambert. Merci à Michel Viala, Martine Degnaud, Jocelyne Boyer et Anne-Marie Bonnard. C'était un reportage de Charlotte Perry, L'état démantelé, enquête sur une révolution silencieuse. C'est un livre qui a été dirigé par Laurent Bonnelli et Willy Pelletier, qui est publié aux éditions de La Découverte avec Le Monde Diplomatique. On se retrouvera lundi, je pense, avec l'équipe du Monde Diplomatique. Et demain, on revient sur un anniversaire, l'anniversaire de la mort de Jean Ferrat. Donc, hommage à Jean Ferrat demain dans La Basse et J'y suis. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission La Basse et J'y suis, où vous pouvez écouter cette émission et faire des commentaires. Même jeu sur labas.org, la-bas.org. La technique aujourd'hui, Basile Bocquer et Jean-Philippe Jeanne, Koye Nguyen et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Le Bot. Et Marina Touillez attend vos messages sur le répondeur de La Basse et J'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
France Inter, partenaire du hors-série 3 couleurs, consacré à Stanley Kubrick. Coup de projecteur sur la vie et la carrière du cinéaste américain à travers sa biographie, sa filmographie, ainsi qu'une analyse des motifs clés de son œuvre. Stanley Kubrick, Eyes Wide Open, un hors-série 3 couleurs à lire en ce moment. À retrouver dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com.
Voilà, puis dans le cours de la semaine prochaine, probablement mardi ou mercredi, on verra, on reviendra sur ce thème de l'état démantelé avec Laurent Bonnelli, qui donnera une analyse de chercheur et de professeur. On creusera donc plus loin sur ce thème très important. 16h sur Inter, on se retrouve demain à 15h avec Jean Ferrat. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut.
Deux journalistes portés disparus en Libye. Il s'agit d'un correspondant du journal britannique The Guardian et d'un journaliste du quotidien brésilien Estado. Le Guardian n'a plus de nouvelles depuis dimanche. Les deux hommes étaient alors à Zawiya, où de violents combats ont eu lieu ces derniers jours. Les forces du régime de Muammar Kadhafi affirment avoir repris le contrôle de cette ville située à 40 km seulement de Tripoli. À Ras Lanouf, à l'est du pays, pilonné par les bombes, les forces fidèles au régime libyen gagnent aussi du terrain. Des roquettes se sont abattues près d'un hôpital qui a dû être évacué. De nombreux insurgés fuient la ville. Sur le front diplomatique, en revanche, l'opposition marque des points avec la reconnaissance officielle par la France du Conseil national de transition comme représentant légitime du peuple libyen. Un ambassadeur va même être nommé à Benghazi, le siège de la contestation. La France a pris la main sur la crise libyenne. Nicolas Sarkozy s'apprête à proposer demain à ses homologues européens des frappes aériennes ciblées. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, la crise n'est pas non plus près de se terminer. Le camp du président ivoirien sortant, Laurent Gbagbo, rejette la proposition de médiation présentée par un panel de chefs d'État africains mandatés par l'Union africaine. Par ailleurs, l'UNICEF s'inquiète de voir la situation d'urgence humanitaire dans le pays occultée par les bouleversements dans le monde arabe. L'organisme des Nations Unies déplore un manque de financement alors qu'il y a 400 000 déplacés dans le pays et 75 000 réfugiés qui ont fui vers le Libéria. Le président du directoire de la SNCM renouvelle son invitation à négocier à l'intention des marins CGT de la compagnie maritime. Ce matin, la police et la gendarmerie ont libéré par la force les accès au port de Marseille, qui était bloqué depuis mardi après-midi. Selon Gérard Couturier, le conflit, qui dure depuis 5 semaines, a déjà coûté 7 millions d'euros à la compagnie. Il a pour origine la diminution du nombre de rotations entre Nice et la Corse. De son côté, la CGT appelle à un rassemblement cette après-midi devant la préfecture pour demander notamment la libération des militants arrêtés ce matin. En plein débat sur la laïcité, alors que le débat autour de la loi sur l'immigration a repris à l'Assemblée, François Fillon assistait ce matin à la remise de décrets de naturalisation à la préfecture de police de Paris. Rappelant l'héritage laïque de la France, le Premier ministre a dit qu'il n'était pas question de toucher à la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, mais il s'est dit prêt à envisager des aménagements réglementaires pour mieux faire respecter la laïcité et la dignité des cultes. Le débat sur les primaires socialistes continue. Le député PS Jean-Marie Le Guen, un proche de DSK, estime que François Hollande ne devrait pas se présenter car ses propositions sont proches de celles de DSK. C'est ce qu'il a dit sur RFI. Selon lui, ceux qui ont des candidatures qui ne se différencient pas beaucoup devraient renoncer aux primaires. La victime présumée de Brandao, le joueur brésilien de l'OM, se constitue partie hier par l'avocate du footballeur. La jeune femme n'a pas retiré sa plainte pour viol. Brandao a été mis en examen et remis en liberté sous contrôle judiciaire. Et puis de chères, très chères guitares, il faut dire qu'elles appartiennent à l'un des génies de l'instrument, Eric Clapton. La vente de 75 guitares et 55 amplificateurs à New York a rapporté plus d'1,5 million d'euros, beaucoup plus que les estimations. Les bénéfices iront à un centre de désintoxication contre l'alcool et la drogue basé à Antigua, dans les Caraïbes.
Demain, dans Service Public...
Tous les vendredis, Service Public a sa façon bien personnelle de feuilleter l'actualité. Alors je vous attends avec les reporters et les journalistes de l'équipe et nos invités. Vos questions et vos réactions sont les bienvenues sur franceinter.com.
Service Public avec Isabelle Giordano, du lundi au vendredi à 10h. Une autre manière de vivre ensemble.
France Inter.
La différence.
16h04 sur France Inter, on retrouve Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Corinne.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous le savez, c'est la journée nationale de l'audition, donc ça nous concerne directement, ceux qui écoutent de la musique. La seule chose, tout le monde le sait maintenant, il faut pas écouter trop fort et les écouteurs notamment peuvent causer des dégâts parce que c'est tout proche de l'oreille, l'oreille interne est fragile, il y a des cellules cilées qui sont extrêmement sensibles, qui peuvent mourir et disparaître, jamais, ne jamais revenir, elles disparaissent et c'est pour toujours. Hein. Et bon voilà, pas trop fort tout simplement. Parce que après ça, il y a le désagrément d'entendre, par exemple, je vais citer une expérience personnelle, dans un hôtel, il y a 2 jours, très bel hôtel, mais au petit déjeuner, pourquoi avoir une bande sonore, enfin, ce sont des fichiers aujourd'hui, boum, 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 et comme ça, etc. Trop fort, ça nous coupe un peu l'appétit, ça nous donne envie de partir, ça n'est pas franchement nécessaire, mais ça agace simplement, ça n'est pas un danger pour l'oreille. Tout à l'heure, enfin, nous sommes tous responsables sans le vouloir de gêne, de bruit qu'on fait, on parle trop fort dans le téléphone. Tout à l'heure, j'ai comme ça pu déguster tous les démêlés d'un monsieur dans le bus qui racontait ses histoires de joints de culasse. Monsieur, si vous nous écoutez, on n'est pas tous passionnés par les joints de culasse, en tout cas pas par ceux des autres véhicules, etc., etc. Mais le principal, c'est le nombre de décibels. C'est quand on va dans des grandes fêtes, et les jeunes le savent très bien, on prend des bouchons d'oreilles parce que passer 80 décibels en général, et puis quand il y a une exposition longue, bien on détruit l'oreille de manière irrémédiable. Je le répète, c'est mon devoir, on me l'a demandé. Bon, voilà, 10e journée nationale de l'audition. Toute information sur www.audition-info.org. Et maintenant, le grand sourd, le vieux sourd, comme disait Claude Debussy, Ludwig van Beethoven, qui a réussi à écrire quand même. Mais pourquoi? C'est parce qu'à la fin de sa vie, il était complètement sourd, Beethoven, on en est absolument certain. Seulement, il avait entendu autrefois. Alors donc, il se souvenait dans son cerveau, il y avait encore toutes les traces de la musique, et il avait constitué comme ça une réserve incroyable de sons, comme une sorte de synthétiseur vivant. Et c'est comme ça qu'il a pu quand même écrire la 9e symphonie, le dernier quatuor et dernière sonate. Un disque qu'on nous a envoyé, qui est vraiment tout à fait passionnant, des variations, il y a sonate, il y a variations de Beethoven, justement. Voici la conclusion des 7 variations sur un thème de la flûte enchantée de Ludwig van Beethoven. C'est pour violoncelle et piano. Thank you. La dernière des sept variations sur un thème de la flûte enchantée, le thème c'est « By Männern, welche Liebe fühlen », c'est-à-dire auprès des hommes qui ressentent l'amour, et nous avons entendu Ivan Monighetti au violoncelle avec Pavel Gililov au piano. C'est un disque Dux, on a reçu pas mal d'enregistrements de Monighetti, donc j'en passerai quelques-uns bien sûr prochainement, mais le thème n'était pas aujourd'hui ce